saine cause, du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, c'est André Duny, c'est la suite de notre émission, vous savez, Dialogue avec Marie, une voisine qui voit à travers la transition, les petits gestes et le fait que tout le monde a bien droit à un terrain de 500 mètres carrés avec une petite villa au bord du lac ou ailleurs. Du moins, c'est un peu ce que je lui fais dire parce que c'est mieux que ça. Et je voulais vous fournir des arguments pour dire que si tout le monde avait une villa avec 500 mètres carrés, même le Mont Blanc ne suffirait pas en France, au rythme de la consommation des terres agricoles qui nourrissent le peuple, hein, qui est un département français de taille moyenne, détruit, bitumé et bétonné tous les 6 ans. Voilà, donc c'est la deuxième partie, on va dire, de notre dialogue. Pourquoi avons-nous choisi la bagnole, l'avion, le tourisme de masse, le plastoche, le smartphone? Est-ce que nous l'avons choisi ou est-ce que nous avons été pris dans un cadre systémique de production, consommation, publicité, etc., qui nous a mis dans un étau, en quelque sorte? Et si nous sommes responsables, c'est moins de rouler avec un vieux diesel ou de consommer des bouteilles en plastique, mais peut-être d'avoir laissé faire les méchants, d'avoir laissé faire le système, en étant content d'avoir du plastique pas cher, des voyages pas chers, d'énormes croisières pas chères. Voilà. Peut-être qu'on s'est fait avoir quelque part et aujourd'hui le piège se referme. Et c'est ce dialogue-là que je vous invite à écouter si vous voulez. Et je voulais juste... Quand même, là j'ai sous le nez un truc, je résiste pas à vous lire. Oui, il a fait enfermer les homosexuels, il a fait enfermer des opposants, il a fait partir un certain nombre d'opposants, il y a le parti unique, c'est pas bien. Du point de vue de notre modèle de démocratie occidentale, c'est vrai. C'est pas bien d'enfermer les homosexuels, et en tout cas c'est pas bien un parti unique. Mais Cuba, je regardais une émission sur Arte, Cuba c'est quand même le seul pays de l'Amérique latine sans malnutrition infantile. Ça, c'est un chiffre de l'UNICEF. Renseignez-vous, tapez UNICEF Cuba. Aucun enfant malnutri. Ils sont 12 millions sur une petite île sans ressources, parmi les 30 pays les plus pauvres du monde. Mais il n'y a personne de sous-nutri. A été déclaré paradis international de l'enfance, encore par l'UNICEF. A le plus bas taux de mortalité infantile en Amérique, l'OMS et l'UNICEF. 130 000 diplômés en médecine depuis 61. Ça, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Ils en exportent dans le monde entier, puisqu'il y a des médecins cubains qui sont même venus donner un coup de main à Milan, en Italie. Vous vous rendez compte? 130 000 diplômés, 12 millions d'habitants. Voilà. 10 élèves par enseignant et qui font des jardins. Ça, je le tiens de Cubains qui, j'avais fait une soirée à Valence, qui m'ont raconté comment ça se passait. 200 millions d'enfants qui dorment dans les rues dans le monde entier. 200 millions d'enfants qui dorment dans les rues et qui travaillent. Eh bien, il n'y a aucun enfant à Cuba qui travaille, qui dort dans les rues. Développement de 4 types de vaccins contre le cancer. Ben, on ne les a pas tous, nous. Un système de santé qui est un exemple pour le monde entier. Ça, c'est l'OMS qui le dit. À l'OMS, vous savez, il y a tout dans l'OMS, y compris des gens qui ont manipulé autour du Covid ou qui va autour des vaccins. 54% du budget de l'État est affecté aux services sociaux. Ben, on en est loin en France. Mais bon, Cuba qui multiplie par 100 les dons de l'Espagne à la lutte contre Ebola. Cuba qui a envoyé 800 médecins et infirmières au Libéria et en Guinée, qui est jugé le meilleur système d'éducation en Amérique latine, hein, en comparaison, qui est le plus grand contributeur du PIB à l'éducation, c'est-à-dire que le taux de PIB, c'est-à-dire richesse du pays, est ben le plus grand du monde consacré à l'éducation des enfants. Un des taux de développement humain les plus élevés. Vous savez, il y a le PIB qui mesure les richesses, et puis il y a l'indice de développement humain, IDH, et bien Cuba est parmi les plus élevés. Premier pays du monde à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Premier pays à éradiquer la poliomyélite. Pays ayant le plus bas taux de criminalité des Amériques. Et le pays le plus écologique de la planète. Les mers. C'est un véritable paradis. Je ne sais pas si vous avez vu ces films sur Arte. Un véritable paradis écologique, puisqu'ils n'ont pas développé l'industrie, ils n'ont pas fait ce capitalisme échevelé et globalisé. Ils ont été aussi victimes du blocus des États-Unis, mais ils ont bien choisi de ne pas se développer. Ils font maintenant des hôtels flottants et ils détruisent des hôtels en béton. Hôtels flottants, ils restent un an dans un endroit pour ne pas le polluer, parce qu'ils misent beaucoup sur le tourisme. N'empêche que tout autour, la biodiversité marine à Cuba est championne du monde, de même que l'agriculture bio, qui est à bio à je ne sais plus combien, 60-70%, championne du monde. Donc, malgré la persécution des homos, la prédominance du parti unique et certains internements d'opposants, et aussi que certains qu'on a bien laissés partir, le bilan, là, est-ce qu'on peut dire qu'il est globalement positif, à l'inverse de ce qu'on a pu dire de la Russie soviétique ? Je vous laisse juger et vous souhaite une belle journée en compagnie de ce dialogue entre Marie et moi sur c'est nous qui consommons et qui tuons la planète. On a beau, Marie, tu vois, on a beau habiller la croissance de tous les adjectifs du monde, croissance verte, soutenable, durable, économie circulaire, on se fout de nous, on va pas produire plus sans polluer, en polluant moins. C'est du bidon, c'est du baratin, de greenwasher, c'est du verdissement, simplement dans les mots. Et ça, c'est la propagande du système qui nous bourre la tête. La vérité, c'est que le gâteau qu'on a en consommation, les plastiques, les bagnoles, les voyages en avion, le tourisme de masse, eh ben, ce gâteau, il est truffé de trucs toxiques, bourré de glyphosate, pourri de plastique, et qu'il ne va pas faire tellement saliver. Mais le système va aller jusqu'au bout. Il va continuer de vendre des bagnoles électriques. Une bagnole électrique, à moins de 120 000 bornes par an, elle pollue plus dans sa fabrication. Et puis ensuite, elle a des freins, la bagnole électrique. Mais vous savez qu'une bagnole électrique, rien que les freins, produisent énormément de petites particules que j'ai appelées les suies tout à l'heure. Alors on va nous vendre maintenant la bagnole électrique, la Zoé que j'ai vue dans l'avant-pays savoyard, là, qui m'a doublé avec une accélération puissante et que j'ai retrouvé 50 km plus loin sur le bas-côté de la route. La fille avait trop... je vais rien dire. Elle avait mal calculé son coup et il faut qu'elle rentre en poussant sa bagnole. Pas tout à fait, il n'y a plus de batterie. Là, voilà, c'est du bidon, c'est du baratin. Et voilà. Donc, on use de vieilles ficelles pour, en quelque sorte, flatter nos égos et nous éviter d'analyser comment ça marche, le système. Justement, la Marie elle me disait, j'ai regardé les Capétiens, je suis en train de lire un livre d'histoire. Ben, je lui dis, oui, toute l'histoire, c'est pas la lutte des individus imbéciles qui sont soumis à l'Église, aux clergés, aux nobles, qui se laissaient violer dans les prés par les chevaliers qui passaient à cheval. Personne n'a souhaité se faire violer ou bosser comme des malades, comme serfs, ou comme ouvriers, ou comme mineurs. En fait, si les gens l'ont fait, c'est qu'ils étaient pris par la classe dominante, et toute l'histoire est bien l'histoire de lutte de classe, de ceux qui ont le pouvoir, l'argent, etc. Il y en a qui ont l'argent, mais ils ont aussi le pouvoir politique par l'intermédiaire de leurs copains députés, ou ministres, ou présidents de la République. Vous savez très bien que notre démocratie, c'est du bidon. La reprise dont on est si fier, qui gouverne en coulisses, qui arbitre les décisions. Vous avez vu en France, c'est à pleurer de rire, on va garder 85% d'indemnisation, ça, tout le monde se félicite, à commencer par ceux qui ont été pour la retraite à points comme la CFDT, parce que beaucoup de gens se font acheter dans le système, on devient nous-mêmes défenseurs du système. Voilà, eh bien, on garde cette petite réforme, c'est sympa, c'est bien. Et par ailleurs, on va donner 5 milliards d'euros d'argent public pour sauver Air France KLM. On va donner 7 milliards d'euros pour sauver la bagnole. Voilà, j'aimerais que Marie, tu réfléchisses à ça. c'est bien l'histoire, c'est pas l'histoire d'individus qui se sont laissés avoir ou qui n'ont pas fait les bons petits gestes, c'est l'histoire des classes qui dominent par l'intermédiaire de la presse, de la radio, qui dominent par l'intermédiaire de l'enseignement, qui dominent par l'intermédiaire de l'État. L'État est aux mains des puissants, il n'est pas aux mains du peuple. Les Gilets jaunes, ils voulaient reconquérir l'État en disant l'Élysée, c'est nous, l'Arc de Triomphe, c'est nous, les ministères, c'est nous. Eh ben oui, c'est nous qui avons construit et c'est notre pognon. Voilà. Non, mais ceux qui habitent dans ces palais, ce n'est pas vous, les pauvres. Les salariés, les exploités, bon, bref. Hein, je lisais dernièrement dans le Fakir, le petit canard de Ruffin, qu'il a levé un lièvre, les filles qui nettoient l'Assemblée nationale, qui désinfectent. Alors, il parlait, elles se lèvent à 4 heures du matin, prennent le métro à 5 heures pour arriver à 6 heures, nettoient de 6 heures à 8 heures, les députés arrivent, repartent chez elles, et elles reviennent le soir, après 3 quarts d'heure de métro, pour renettoyer de 19 heures jusqu'à 22 heures ou 23 heures. Vous vous rendez compte? Une nana qui a des gamins, qui fait 3 quarts d'heure de métro. Et tout ça pour 800 euros, parce que vous comprenez qu'avec ce système, elle est à temps partiel. Et aujourd'hui, il y a des 15 millions de personnes qui ont moins de 1000 euros par mois pour nourrir leur famille, payer leur HLM. C'est hallucinant, ce pays. Et pendant ce temps-là, eh bien, je lui disais, Marie, tu vois bien que c'est une affaire de lutte de classe. Ben, si tu regardes bien les riches, ben, les classes populaires, c'est les ouvriers, les employés, du moins payés au plus mieux payés, il y en a quelques-uns, ils ne possèdent rien. Les classes moyennes, ben, c'est les métiers les moins pénibles, les mieux payés, et qui commencent à posséder pas mal de choses. Hein. Je vois dans mon milieu, c'était une maison, une résidence secondaire, un camping-car, puis des grands écrans, et puis les classes supérieures, elles dirigent. Puis la classe dominante, ben c'est les riches, les super riches. Ils possèdent. Ils possèdent les usines, ils possèdent les banques, ils possèdent les grandes surfaces, ils possèdent tout le système. Voilà. Donc c'est bien des classes qui sont en jeu. C'est pas le même comportement lorsqu'on est pauvre ou de la classe ouvrière avec, si on est cadre supérieur, dirigeant, employé dans les ministères de l'État. Donc, allez. On va dire qu'en 2014, les 85 plus riches de la France, les 85 plus riches du monde, ils gagnaient plus de richesses hein, en biens que 3,5 milliards les plus pauvres. En 2018, 8 riches seulement ont plus de richesses en biens immobiliers ou en richesses monétaires que les 3,5 milliards les plus pauvres. C'est Oxfam qui le dit. En 4 années, on est passé de 85 riches à seulement 8 riches. Les riches s'enrichissent 10 fois plus vite que les plus pauvres. Buffett, qui est un milliardaire, disait que la lutte des classes existe, mais c'est ma classe qui est en train de la gagner grâce à la mondialisation. En France, vous avez 100 ultra-riches qui font 257 milliards. C'est hallucinant. La fortune cumulée des 500 Français les plus riches, c'est 330 milliards. 500 les plus riches, c'est 330 milliards. Les chiffres sont de 2016. Voilà. 320 en 2015, il y a eu une petite boulette. Mais là, en 2018-19, ça repasse à 360 milliards. On a 55 milliardaires, dont un est le premier milliardaire du monde. Ah non, il a été redépassé par le patron de cette saloperie d'Amazon. Hein. Celui qui vous parle n'a jamais commandé sur Amazon.
be free, king of the heights. Leave me free, let my soul be free, king of the heights.
How they breed, how they hunt, a real predator, a chaser of ducks, a catcher of game. And what we found was in some ways incredibly mind-blowing. They will face any kind of threat with full force.
Leave me free, let my soul be free.
Les pauvres, ils étaient 9 millions, et ben ça y est, ils sont passés à 11 millions. Et 15 millions de moins de 1000, à moins de 1000 euros. Les très riches, ben c'est d'abord ceux qui ont les banques, les capitales financiers. Ensuite, comment dire, le capital industriel, hein, ceux qui fabriquent les smartphones, enfin qui font fabriquer en Chine ou ailleurs, hein, parce que les multinationales françaises, elles sont partout. Mais quand on est très riche, on a le capital financier, l'argent, les propriétés, le yacht, tout ça. On a aussi le capital culturel. Hein? Alors, ceux qui ont le capital culturel sans avoir l'argent, forcément, c'est les chercheurs, réalisateurs, etc., de cinéma, les artistes. Et puis, il y a aussi le capital social, le pouvoir. Quand vous êtes de la classe moyenne ou moyenne supérieure, vos enfants, ils réussissent dans les grandes écoles et vous avez ce fameux capital social, c'est les relations, c'est le pouvoir. Hein, le riche peut très bien, disons, s'infiltrer dans l'appareil d'État. Qui est-ce qui conseille Macron? Qui est-ce qui conseille Sarkozy? Eh bien, vous l'avez vu, ce sont des gens de des banques et de la grande industrie qui placent là leurs hommes. Ça, c'est le capital social, le pouvoir. Puis le quatrième élément qui fait la richesse, c'est le capital symbolique. Je m'appelle Charles Henry, n'est-ce pas? Charles Henry, capital symbolique, l'élégance, la distance, voilà, les apparences, les réceptions, voilà. Donc, quand vous êtes riche, vous avez le capital financier, vous avez le capital culturel, vous avez fait des études, voilà, et puis vous êtes entouré de gens bien, quoi, entre guillemets. Vous avez le capital social, vous avez le pouvoir politique, et vous avez le capital symbolique. C'est-à-dire, on vous reconnaît une extrême élégance et une extrême richesse d'esprit, voire de don. Voilà. Et c'est comme ça que l'on légitime son... Et on retombe sur le même argument. Tu vois, Marie, tu me dis, mais les riches, ils ont simplement du talent. Ils ont plus de talent que nous. Nous, on est restés pauvres. Bon, toi, avec tes bouteilles de plastique et tout ça. Ben non, Marie, c'est pas parce que on n'avait pas de talent. C'est parce que quand on va à l'école, les pauvres sont appauvris par l'école. Je m'explique. Toutes les enquêtes PISA montrent qu'à l'école française, quand on arrive à l'école maternelle, il y a les riches et les pauvres. Hein, on est d'accord. Tout le monde sur les mêmes bancs. Encore que, bon, il y a des riches qui font l'enseignement chez eux, mais il y a aussi des gens relativement peu aisés qui font l'enseignement chez eux. Mais quand vous sortez de l'enseignement, l'écart entre riches et pauvres, l'école l'a encore accru en faisant que le riche ait beaucoup de diplômes, alors la thèse par-ci, l'ingénierie par-là, deux ans de la licence, puis deux ans après, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, vous sortez avec énormément de diplômes. Mais les plus pauvres, eux, aujourd'hui, ils sont 150 000 jeunes, ils sortent sans aucun diplôme. Ceux-là, ils vont avoir toutes les galères du monde, puisque quand vous avez beaucoup de diplômes, vous avez 80% de plus de chances d'avoir un bon emploi, naturellement. Vous sortez ingénieur à bac plus 5 ou 6, hein, ben, vous allez trouver du job, ben, bien sûr, il y en a qui galèrent pendant 3, 4, 5, 6 mois. Mais la galère, elle a une fin, la plupart du temps heureuse, parce que le diplômé trouve encore à s'employer, si c'est pendant sa branche, avec un diplôme d'ingénieur. Encore que j'en ai connu qui ont fini, mais ça c'était plutôt un choix, maraîcher. Et mais si vous n'avez rien du tout, ben vous ferez les boulots qui restent, voilà. Et pour terminer, sachez, Marie, que les 3 750 millions de personnes les plus pauvres de la planète génèrent 1/8 de la pollution mondiale. Donc la moitié des habitants de la planète parmi les plus pauvres, génère 1/8 de la pollution de la planète. 1/8 de la pollution de la planète. Mais les 10% les plus riches, 750 millions de personnes quand même. Hein. En France, les riches, il faut voir qu'il y en a un paquet. Hein. Nous, on a un pays qui était ultra riche, à force d'avoir pillé le Vietnam, l'Afrique du Nord, les richesses, le bois, le caoutchouc, le pétrole, le gaz, le cacao, hein, ça continue un petit peu aujourd'hui. Ben, nos multinationales, nos entreprises, etc., ont rapatrié ça en France. Eh bien, les 10% les plus riches de la planète, c'est 750 millions de personnes. Et en France, les plus riches, c'est 12 millions de millionnaires, vous entendez bien ? Pardon, pas 12 millions, 2 millions, 3 millions de millionnaires, exactement. J'ai regardé les chiffres sur Internet, les plus récents, 3 200 000 millionnaires en France sur 67,5 millions d'habitants. C'est énorme. Il y a une richesse fantastique en France. Mais elle est entre quelques mains assez nombreuses, puisque c'est quand même 3 200 000 millionnaires. Alors, quelques-uns me disent « Ah oui, mais il avait un terrain à l'île de Ré qui a augmenté. » Oui, oui, oui. D'accord, ça concerne quelques milliers de personnes, mais les autres, ils ont bel et bien de la fortune. Et une fortune qu'ils font fructifier. Il suffit d'investir dans le pétrole, dans la nouvelle usine de gaz que Total a construit avec Poutine, les multinationales russes, du gaz en Sibérie, et vous aurez du pognon à la fin de l'année, puisque vous mettez 100 euros, à la fin de l'année, vous avez 115. Bon, ben, si vous mettez 1 000 euros, vous aurez 1 150. Si vous mettez 1 million d'euros, ben, vous aurez 150 000 gagnés en un an sans rien foutre. Si vous mettez 100 millions, vous aurez, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des actionnaires, des riches qui mettent là où ça rapporte. Les 10% les plus riches de la planète génèrent plus de 50% de la pollution de la planète. Sachez quand même ce qu'on appelle le consumérisme, bien qu'on soit imbécile à consommer du plastique, des tas de choses. Oui, imbécilisé, pas imbécile. Imbécilisé par la pub et autres. La consommation, le consumérisme de tout le monde sur la planète représente à peine 20% de la pollution. Là, je parle de tout le monde. Hein. Par contre, la pollution générée par les plus grandes multinationales, alors il y a deux chiffres. 65 multinationales font 2/3 des gaz à effet de serre, 65 seulement, puis il y en a une autre, c'est 90 multinationales. Allez, on va se mettre d'accord. En gros, quelques dizaines, disons 80, des plus grandes multinationales du monde, du pétrole, du gaz, du ciment, de l'acier, du plastique, font à elles seules, les entreprises, 2/3 des gaz à effet de serre. Tu vois, Marie, c'est pas toi, hein, parce que t'as pas de chiottes secs, qui est en train de tuer le lac d'Aigbelette et la planète. Quant à la taxe carbone, elle pèse 5 fois plus sur le budget des 10% les plus pauvres que sur celui des 10% les plus riches. Eh ben oui, parce que si vous faites une taxe carbone, compte tenu que les plus pauvres Souvent, ils n'ont plus de train, comme c'est le cas dans l'avant-pays savoyard. Ils vont prendre leur bagnole et ça va leur coûter sur leur budget de smicard ou légèrement mieux que smicard, eh bien, 5 fois plus que le plus riche. Parce que si vous avez 7000 euros par mois, qu'est-ce que vous en avez à foutre de faire 2 pleins, 3 pleins à 300 euros? Si vous êtes pauvre, que vous êtes obligé de vous déplacer, vous faites 2, 3 pleins à 300 euros quand vous gagnez 1200 ou 1300 euros, vous êtes mort. Voilà. C'était votre chroniqueur qui dialoguait avec Marie, sa voisine, et sur est-ce que c'est nous qui détruisons la planète? Eh bien, oui et non. Oui, pour 20% quand on consomme comme des malades. Et non, oui, aussi, à 20%, ah non, là c'est à 100%. Quand les pauvres, les exploités, les classes dites dominées, acceptent que les dominants leur imposent une économie, une société, un pouvoir politique, une culture de consommation, un pouvoir de vous remettre dans le rang à coups de bâton de police, de violences policières, dont on commence à dire, ça c'est une analyse vraiment politique, qu'elle est violence structurelle. Ah, enfin, c'est pas un policier qui est violent. On en voit dans les manifs qui sont prêts à casser le max, des gros violents. Non, c'est une violence structurelle, c'est-à-dire dans la structure de la police, il y a un tiers, un quart de violents. Non, il n'y a pas un tiers, un quart de violents. Ils reçoivent des ordres pour être violents, pour réprimer les gilets jaunes, pour mettre 8000 personnes quasiment à l'hôpital, éborgner, je ne sais plus combien, 7 ou 8, non, 25 personnes, et arracher les mains de 7 autres personnes. En clair, quand on parle de la violence structurelle, on parle de la violence de l'État français, de sa police, de sa hiérarchie, mais c'est sur des ordres. Alors qu'il y a une police qui est beaucoup moins violente en Allemagne. Et pourquoi la police française est peut-être plus violente? Parce que la lutte des classes est plus intense et donc les riches se défendent plus violemment. Voilà. Et pourquoi il y a du racisme? Ah ben le racisme, on dit que c'est individuel. Toi, t'aimes pas les Noirs. Non. Pourquoi on a développé le racisme structurel de la police et d'ailleurs? Parce que, il faut savoir que 50% des policiers ont voté Front National aux élections européennes. Comme 60% des enseignants ont voté Macron. Il faut bien regarder la responsabilité de tout le monde. Eh bien, pourquoi il y a du racisme structurel en France? C'est parce qu'on est l'héritier d'une longue histoire coloniale où on a bastonné l'arabe et où nous ont repiqué l'Algérie alors qu'elle était à nous. C'est ce que disent les racistes. Et que le racisme est nécessaire. Si vous voulez exploiter un noir dans des champs de coton aux États-Unis, il faut vraiment que ce noir, vous le considériez comme une sous-merde. À ce moment-là, vous pouvez lui donner du fouet et le faire couper la canne par 45 degrés toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est consubstantiel au système capitalisme, le racisme. Vous ne pouvez développer l'exploitation que si vous avez racisé les gens. Alors, il y a un racisme qui est ethnique, le noir, mais qui en cache un autre bien plus grave, le racisme social. T'es pauvre, t'es un pauvre con. Voilà. Et ça, je l'ai entendu en masse pour les gilets jaunes, des gros lourds, des clopeurs. Bref, pour l'élite dirigeante, les classes dominées sont des classes de brancos, de bras cassés, d'incapables, de losers, de perdants, de gens incapables de gérer leur vie. Or, je rappelle, et je termine là-dessus, chers amis auditeurs, qu'au XVIIIe siècle, le niveau de vie en Afrique et en Asie, en Chine et en Inde était supérieur au niveau de vie français. Mais que les paysans français vivaient assez bien. Il y a eu quelques famines, sauf dans les pays où il y avait des châtaigniers. Mais en gros, il y avait beaucoup moins d'inégalités qu'aujourd'hui. C'est le système qui a ravagé l'Inde, qui a ravagé l'Asie. Alors la Chine se reprend en faisant un capitalisme d'État qui permet de sortir de la pauvreté 300 millions, 400 millions de personnes en leur distribuant beaucoup de choses en plastique, des bagnoles, des autoroutes, des beaux immeubles, d'accord. Mais le système, lui, il s'est fait en effondrant. Il n'y a plus d'eau buvable en Chine. 99% des fleuves sont ultra pollués. À Pékin, on ne voit pas les étoiles, on ne voit pas le soleil quasiment. Il y a combien de décès par jour à cause des bronchiolites Donc le prix à payer est très très cher pour sortir de la pauvreté par le capitalisme, qui effectivement a enrichi un tas de gens. Il ne faut pas le nier. Mais peut-être qu'on aurait pu dire qu'en allant du XVIIIe siècle à aujourd'hui, on aurait peut-être pu moderniser les moulins à eau, on aurait peut-être pu faire des engins agricoles à traction animale, on y revient, qui soient plus efficaces, on aurait pu faire des soudures moins gaspilleuses, on aurait pu peut-être éviter la mondialisation, parce que là, ça va très très mal se passer si on ne se bouge pas le train. Et c'était l'émission que je vous invite à regarder avec Madame Brigitte Bienassi de la communauté de communes Cœur de Chartreuse, une parmi les élus, vous voyez que je ne suis pas entièrement anti-élu, qui se bouge le train pour que nous puissions en Chartreuse disposer de terres agricoles pour y faire de l'agriculture vivrière qui permette de nourrir nos enfants, parce que ça va très très mal se passer si on ne fait pas de l'agriculture locale, si on ne fait pas de l'agroforesterie, si on ne protège pas notre réserve en eau. Hein, en Chartreuse, il y a déjà 5-6 communes qui sont alimentées par des citernes en eau. Et il est vital aujourd'hui de protéger nos ressources vitales. Voilà. Eh bien, si vous avez été intéressé, dites-le moi au 06 75 80 05 79. Ou surtout si vous n'avez été énervé, comme ça a été le cas d'une auditrice qui m'a envoyé un long mail. Je lui ai répondu longuement. Et à la fin, elle me répond... C'est vrai que vous ne dites pas que des bêtises, que c'est argumenté, qu'il y a des faits, que c'est pas du conspirationnisme. Ouais, et surtout que quand je critique les élus, je voudrais juste terminer. Vous savez, il va falloir, il y a eu des cabinets, ça a été revu par l'État. C'est le modèle de nouvelle ambulance française, modèle à 160 000 euros, issu du travail de réflexion d'une commission d'administration de l'État, de la Sécu, de médecins, de 4 SAMU, de l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP comme on dit, qui ont fait appel à un cabinet d'audit d'ingénieurs. Et ben voilà la situation, c'est que l'ambulance, elle passe pas sous la plupart des hôpitaux. Donc voilà, on fait en série 160 000 euros une des ambulances. Elles sont trop hautes pour passer dans les hôpitaux. Voilà ce qu'on appelle des crétins diplômés fabriqués en série par une école qui n'a pas ouvert les esprits. Je vous remercie.
La saine cause. Du bien commun est un monde vivable. Émission présentée par André Dunis.